Comment les génocides sont-ils reconnus? C'est la question que vous posez ce matin, Isabelle Duché, à vos deux invités.
La reconnaissance des génocides, c'est l'objet du colloque proposé par l'Institut catholique de Toulouse le 23 avril, une journée de réflexion ouverte à tous qui abordera les aspects historiques, juridiques et politiques de cette question. Mes invités sont Catherine Grainfogel. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence émérite de l'Université Toulouse-Capitole et enseignée à l'Institut catholique de Toulouse et celui de Vendée, vous m'avez dit.
Oui.
Et Marie Brusson-Crousatier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître assistant à l'Institut catholique de Toulouse. Merci pour votre présence ce matin pour nous présenter ce sujet passionnant qui nous passionne déjà depuis 20 bonnes minutes. Le colloque « La reconnaissance des génocides » est organisé par la chaire Vulnérabilité et mutation du droit au sein de la faculté de droit de l'Institut catholique de Toulouse. Marie Brusson-Crousatier, pourquoi cette question ?
En fait, dans le cadre de notre chaire de recherche vulnérabilité, nous traitons beaucoup les faits sociaux majeurs contemporains, par exemple l'autisme, le développement, et là les génocides. Nous les traitons d'un point de vue juridique pour que ce soit en lien avec nos enseignements et aussi avec nos partenariats, puisque nous avons des partenariats un petit peu partout, Sherbrooke, le Québec, l'Université de Toulouse-Capitole. Et donc, dans ce contexte contemporain, nous pensons que traiter du génocide est extrêmement important de par l'utilisation du mot. Et en plus, cela s'inscrit dans la continuité du colloque Résistance catholique que nous avions fait en 2022 en partenariat entre la chaire Vulnérabilité et Mutation du droit et le mémorial de la Shoah.
Un colloque que Radio Présence avait aussi suivi et pour laquelle nous avions été en direct avec vous. 80 ans après la Shoah, de quelle manière la notion de génocide a-t-elle évolué, Catherine Grainfogel ?
Alors, l'évolution de cette notion est chaotique, je pourrais dire, puisque, comme nous le disions précédemment, c'est une notion qui est complètement dévoyée. Dans le langage courant, on a vite fait de dire, voilà, pour moi, c'est un génocide, etc., dès lors qu'on voit un massacre de masse, des meurtres en masse. Mais il y a quand même une définition juridique, et il faudrait peut-être réfléchir avant de prononcer des mots qui n'ont finalement plus aucun sens, voilà. Mon propos aujourd'hui sera d'exprimer d'abord mon agacement devant ce dévoiement, ensuite les difficultés de la notion elle-même et les difficultés générées par la Convention sur le génocide de 1948 qui, elle, lui a donné son existence juridique, qui a donné son existence juridique à ce concept.
Alors justement, si nous parlons de cette Convention sur le génocide ça a été le premier traité sur les droits humains adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948. L'ONU manifestait l'engagement de la communauté internationale à ne plus jamais laisser se produire des atrocités, celles qui avaient été commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Quels sont spécifiquement les critères de reconnaissance d'un génocide ?
Alors justement, c'est le problème. Un génocide, disons, vous voyez un meurtre de masse, cela peut être tout aussi bien un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un génocide. Parce que ces trois infractions, ces trois incriminations se partagent la même matérialité. Vous voyez, un meurtre de masse. Eh bien, ce qui les différencie, c'est l'intention. L'intention. Vous savez, dans chaque infraction pénale, bon, on ne va pas faire un cours ici, mais dans chaque infraction, il y a un élément légal, la loi violée, le texte violé, méconnu, l'élément matériel, donc qui est commun aux trois infractions, et l'élément moral. Et c'est là toute la distinction. Mais le problème, alors ici, l'élément moral du crime de génocide, c'est l'intention de détruire, de différentes façons, selon la Convention, de détruire en tout ou en partie un groupe.
Donc c'était vraiment le cas pendant la Seconde Guerre mondiale avec le nazisme.
Exactement. Les nazis ont voulu éradiquer le peuple juif de la terre, de la même façon d'ailleurs que les jeunes turcs ont voulu éradiquer de Turquie les Arméniens, sauf que ces deux horribles forfaits n'ont pas été punis sous le nom de génocide. Les Arméniens n'ont pas été punis du tout, puisque, comme je vous le disais, un tribunal avait été institué, mais bon, les choses ont fait que le politique a repris le dessus, une loi d'amnistie a été adoptée et rien ne s'est fait. En revanche, pour le génocide des Juifs, c'est ce qui a provoqué, enfin, pas seulement, hein, loin de là, mais disons que c'est ce qui a permis de considérer que ce genre de forfait ne pouvait plus passer aux pertes et profits de la vie internationale, comme ça avait été le cas jusqu'à présent d'ailleurs. Vous savez, c'est les guerres, c'est la guerre, ce sont, malheureusement, ça marche avec. Mais là, c'était tellement énorme, c'était quand même un crime planifié, organisé jusqu'au moindre de ses rouages, et on a considéré alors... Je parle, moi, de conscience sociale universelle. La conscience sociale universelle a considéré qu'on ne pouvait donc plus passer ces crimes aux pertes et profits de la vie internationale. Mais, comme le disait Charles Péguy, tout commence en religion et tout finit en politique. C'est-à-dire que la conscience sociale a eu cette poussée, on ne peut pas laisser faire, mais à l'arrivée au tribunal de Nuremberg, bon, ces crimes-là ont été... jugés, mais pas sous forme de crimes contre l'humanité quand on ne pouvait pas faire autrement, mais si on pouvait les placer dans la catégorie des crimes de guerre, on l'a fait. Et quant au génocide, on n'en a pas. Il y a eu quelques allusions, quelques références au génocide à Nuremberg, mais c'est tout. Il a fallu attendre 1948, donc, pour donner à ce crime son existence légale. Si je peux
donc
dire.
Si on reprend cette définition de la Convention internationale, Marie Brusson-Crouzatier, donc il y a donc cet élément moral du génocide, cette intention. Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même quels sont les autres éléments ?
Alors, en plus de l'intention, il y a, parce que la notion de génocide donc, a été créée, si on peut dire, par Raphaël Lemkin, qui était un juriste juif polonais et qui, justement, s'est appuyé sur ce dont parlait Mme Grainfogel tout à l'heure, c'est-à-dire sur le massacre des Arméniens, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas être traité et pourquoi est-ce qu'un tribunal ne pouvait pas être mis en place. Et donc,
ça, c'était en 1944. On est quand même pas loin de la déclaration de l'ONU.
Alors non, il a commencé à travailler sur ça, sur les Arméniens, c'est-à-dire pendant ses études de droit, donc dans les années 20. Et en fait, quand il a vu ce qui se passait avec les nazis et avec Hitler... Il a décidé de travailler plus et donc a proposé une définition de génocide. Alors effectivement, il faudra attendre 1948 pour que ce soit fait, puisqu'il publie son œuvre...
Axis Rule.
Exactement, en 1946. Mais le mot de génocide quand même est apparu, puisque dans l'acte d'accusation du tribunal de Nuremberg, le terme de génocide à l'encontre des accusés a été prononcé. Donc, il y avait déjà une connaissance de ce terme-là et de sa nécessité de le définir juridiquement. Ce que nous verrons dans le cadre du colloque, c'est que Raphaël Lemkin, il a défini plusieurs points qui pouvaient définir un génocide. Et il voulait parler absolument, dans son quatrième point, d'un génocide culturel. Et la notion de génocide culturel, elle n'existe pas dans le droit international. Et elle a été retoquée parce que...
elle était dans le projet des Nations Unies, mais ils l'ont effectivement retoquée dans la version définitive de la Convention.
Et elle n'apparaît donc plus, mais on va voir que certains voudraient la faire reconnaître encore aujourd'hui.
Et qu'est-ce qu'elle permettrait, cette notion culturelle ?
Alors, c'est ce dont va parler Enguerrand Serrurier, qui est maître de conférence chez nous en droit public. Il va parler notamment des peuples autochtones qui voudraient faire reconnaître les massacres de la colonisation, en tant que génocide. Et donc, comme il n'y a pas la notion d'intention qui est présente, ce dont parlait Mme Grainfogel, il voudrait faire reconnaître justement un génocide culturel. Et c'est là qu'on verra toute la différence entre les historiens et les juristes. C'est-à-dire que les historiens, eux, vont parler, par exemple, en Amérique, du génocide des Indiens. Sauf que pour le juriste, comme il n'y a pas un ordre direct, comme il n'y a pas une intention qui est avérée, cela ne rentre pas dans la définition, donc nous ne parlons pas de génocide.
Mmh. Vous disiez, Catherine Grainfogel, que vous étiez agacée parce que ce mot génocide est utilisé à tout bout de champ. On le voit bien, le 19 septembre dernier, dans la tribune des Nations Unies de New York, c'était le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a accusé Moscou de génocide en Ukraine. Et à l'inverse, il y avait, depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine qui accuse Kiev d'être nazifié et responsable d'un génocide, je le mets entre guillemets. Quels effets sont attendus par l'emploi de ce terme de génocide ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Pourquoi ils emploient ce terme ?
Dans ce mot, il y a une sorte de jugement moral. C'est, comme le disait Winston Churchill, le crime des crimes. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a beaucoup de mixage avec cette notion, parce que certes, nous avons la Convention du génocide qui en fait un crime particulier. Mais par exemple, en droit français, dans le code pénal. Ben, le génocide, c'est une forme de crime contre l'humanité. Donc, on va dire que c'est la forme suprême du crime contre l'humanité. Vous voyez, il y a trop de définitions, il y a trop de mixage entre cette infraction et les autres. Je pense qu'ils veulent, quand Zelensky accuse Poutine de génocide et vice-versa, ben c'est pour donner une connotation morale, etc., aux actes qui sont perpétrés. Mais bon, d'ailleurs, je crois qu'une poursuite à la Cour pénale internationale est en cours contre Poutine. Mais vous savez, c'est compliqué parce que encore faut-il avoir souscrit, accepter la compétence de la Cour, etc. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui font que l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous. Mmh.
Vous disiez, Marie Brusson-Crozatier, que la notion de, enfin, l'emploi du terme génocide l'avait été très récemment par le président Lula.
Exactement. Le président Lula, en parlant d'Israël, les a accusés à plusieurs reprises de génocide. Et notamment, il a dit dans un discours du mois de février, ce sont des massacres de femmes et d'enfants, ce ne sont pas des crimes de guerre, c'est un génocide. Si ce n'est pas un génocide, je ne sais pas ce que c'est alors.
Eh bien, si vous permettez, on peut conseiller au président Lula de regarder un petit peu les textes. Mais ce qui me surprend ici, c'est de parler d'Israël qui tue des femmes et des enfants et qui commet un génocide, mais peut-être pas de ce qui a généré les faits actuels, qui est un acte pour moi de légitime défense, même si c'est affreux et effectivement personne ne le conteste. Mais personne ne parle, et le président Lula n'a pas parlé de ce qui s'est passé le 7 octobre, où on a assassiner des enfants de façon atroce, violer des femmes, etc. Ça, on n'en parle pas. Ça, c'est pas un génocide. Mmh. D'autant plus d'ailleurs, je le précise au passage, que dans tous les statuts de ces organisations terroristes anti-Israël, le Hamas et les autres, la disparition de l'État d'Israël est dans le programme, dans leur statut. Ça fait partie de leur statut. Mais ça, c'est peut-être pas un génocide, selon le président Lula et d'autres.
L'histoire nous le dira. Et alors, il y a aussi la Cour internationale de justice, la Cour européenne des droits de l'homme et le juge administratif qui donne une définition du crime de génocide.
Alors, la Cour internationale de justice, en fait, c'est assez spectaculaire parce que c'est la seule Cour internationale qui permet, par sa convention, d'être saisie directement, automatiquement, par son article 9. Et on a, par exemple, l'Afrique du Sud qui a fait une saisine de cette Cour internationale de justice en accusant Israël de génocide. Alors, des mesures conservatoires ont été prises car cela peut être plausible. Toutefois, il faut bien mettre des nuances puisqu'il n'y a aucune reconnaissance directe et que c'est en cours d'étude. C'est comme la CPI, la Cour pénale internationale, par rapport à Vladimir Poutine, où on est encore dans l'étude de ce qui se fait et de voir si on peut réellement parler de génocide. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de lawfare et en fait, on va saisir toutes les instances pour essayer...
Lawfare, vous pouvez expliquer ?
Justement, voilà. C'est quand on va saisir toutes les instances pour obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire faire parler de son cas, de son affaire, le politiser, le rendre public. Et donc, finalement, on va utiliser de façon idéologique les cours internationales pour les faire valoir. Et en revanche, concernant la CEDH et le juge administratif, là, en fait, c'est un petit peu différent parce qu'eux, ils ne peuvent pas reconnaître de génocide en tant que tel parce que ce n'est pas dans leurs compétences. Mais eux, ils vont traiter, en fait, des auteurs et ils vont traiter des victimes. Par exemple, le juge administratif, ben, quand on va demander, dans le cadre de la CNDA, un statut de réfugié, il va y avoir une clause d'admission en tant que réfugié, mais surtout, on va statuer sur la clause d'exclusion. C'est-à-dire que même si on est reconnu comme étant persécuté, à partir du moment où on est reconnu comme coupable d'actes, que ce soit un génocide, un crime contre l'humanité, dans ce cas-là, on est automatiquement exclu du statut de réfugié et on ne peut pas en bénéficier.
C'est ce qui s'est passé pour le Rwanda.
Exactement. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, on a eu énormément de Rwandais qui sont venus en France pour demander le statut de réfugié, sauf que comme il était avéré qu'ils avaient participé au génocide, puisque je rappelle qu'il n'y a que 3 génocides généraux qui ont été reconnus, enfin 4 avec les Yézidis, mais c'est très récent. Mais donc, il n'y a que 3 génocides qui ont vraiment été reconnus par les instances internationales.
On a parlé des 2 premiers, donc l'Arménie et puis le génocide.
Non, le génocide arménien n'a pas été reconnu par les instances internationales. Ce sont le génocide des Juifs, le génocide au Rwanda et le génocide dans l'ex-Yougoslavie.
Dans la Yougoslavie. Pour terminer, une toute petite question sur le génocide arménien et notamment sur ce qui s'est passé assez récemment, Catherine Grainfogel. Est-ce que vous pourriez nous dire si là, on peut considérer qu'on rentre dans cette définition du génocide ?
Alors, je ne veux pas trop en parler parce que je ne suis pas la spécialiste, mais nous aurons une intervention, ce matin, de Mme Gohar Galustian, qui est enseignante-chercheure à l'Université de Grenoble et qui va nous parler de la question du continuum génocidaire dans le cas arménien, précisément.
Donc voilà, une grande journée à suivre aujourd'hui, qui est ouverte à tous. On peut encore s'y inscrire. Merci beaucoup, Catherine Grainfogel, maître de conférence émérite de l'Université Toulouse-Capitole, et Marie Brusson-Crouzatier, maître assistant à l'Institut catholique de Toulouse. Ce colloque, La reconnaissance des génocides, est aujourd'hui à l'Institut catholique de Toulouse.